615 000 signatures au début de cette semaine. Les opposants à la privatisation d'Aéroports de Paris sont encore loin du compte. La procédure engagée par les parlementaires de l'opposition doit recueillir 10% du corps électoral, soit un peu plus de 4,5 millions de signatures pour aller à son terme, ce qui veut dire à peu près 17 000 signatures par jour jusqu'à la mi-mars. Mission impossible ou presque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État a proposé de ramener ce seuil à 1 million de signatures, en gardant par conséquent ce principe du référendum d'initiative partagée entre les élus et les citoyens. On est très loin donc du RIC, réclamé par les Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne en vigueur dans de nombreux pays, mais qui n'est décidément pas dans la culture politique française où tout procède d'en haut. Conception pyramidale du pouvoir, attachement à la démocratie représentative, frilosité des élites face aux citoyens qui n'auraient pas l'expertise nécessaire pour décider. Alors redonner du souffle à la démocratie paraît pourtant indispensable, qui commence d'ailleurs à se faire très timidement là aussi par le biais de budgets participatifs dans certaines collectivités locales. Mais comment aller plus loin ? Nos invités ce soir pour en parler, Raoul Magny-Berton, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, et Clara Egger, professeure assistante en relations internationales à l'université de Groningen. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux auteurs de RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, paru aux éditions FIP cette année même. En ligne de Chalon-sur-Saône également, Cécile Untermaier, députée socialiste de Saône-et-Loire, présidente du groupe de travail de l'Assemblée sur la démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne. Bonsoir à vous, madame.
Bonsoir.
Et puis nous appellerons dans un instant Michel Moreau, première adjointe à la mairie d'Angers en charge de la citoyenneté. Le téléphone sonne, c'est jusqu'à 20h. Vos questions, vos remarques, bien sûr au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Premier auditeur, ce soir, il nous appelle de Grenoble, c'est vous, Patrick. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos émissions et merci de prendre mon appel. Moi, je voudrais apporter mon témoignage donc au niveau de la ville de Grenoble, où la ville de Grenoble, ayant plus de 80 000 habitants, est concernée par les mesures mises en place par le législateur pour obliger des structures de démocratie participative. Alors, en l'occurrence, à Grenoble, ça s'appelle les CCI, mais peu importe. Et ce que je constate malheureusement, donc effectivement, c'est de l'appel à bénévolat, c'est du volontariat, et malheureusement, après quelques années, puisqu'à Grenoble ça s'est mis en place en 2015, donc ces structures qui existent, eh bien à Grenoble, nous avons énormément de mal à recruter des habitants pour venir rejoindre ces CCI. Et puis un autre témoignage, c'est que ben quand le président a mis en place son organisation autour des grands débats nationaux, eh bien à plusieurs associations, nous avons organisé un grand débat national, et sur notre quartier, où il y a à peu près 6 000 personnes, je le fais à la louche, eh bien, il y avait 22 habitants. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense que des dispositifs, il en existe déjà, et ça, ce sont les deux exemples que je viens de citer, et que, voilà, il y a déjà moyen de s'impliquer, je pense, dans la démocratie participative.
Mais en l'occurrence, Patrick, il s'agit juste de discuter, c'est une consultation qui est organisée où il y a une prise de décision des citoyens.
Alors sur la structure qui s'appelle le CCI, donc effectivement on est là pour faire évoluer la vie des habitants, et on est sollicité sur des projets, donc la ville nous sollicite, nous demande notre avis sur certains projets de réorganisation, de construction, d'aménagement, par exemple les grandes pistes cyclables qui s'appellent chronovélo. Voilà, donc on a un avis consultatif et le législateur nous prévoit de saisir le maire d'une question exposée lors du conseil municipal. Alors effectivement, ça ne touche que les 80 000, que les villes de plus de 80 000 habitants, mais peut-être que ce dispositif existe sous d'autres formes dans les plus petites communes, là j'avoue que je ne sais pas. Voilà, c'était juste mon témoignage que je voulais apporter.
Merci à vous, Patrick, pour ce témoignage. Voilà, la démocratie participative, c'est un bien grand mot, ça ne marche pas toujours, qui veut intervenir ?
Peut-être juste un mot, vu que je viens de Grenoble, et que j'ai observé un peu en 2016, Grenoble, peut-être vous savez, il a mis en place ce qui s'appelle le droit d'interpellation, qui était en fait un RIC, c'est-à-dire avec 2000 signatures, ça donnait lieu à une votation si le conseil municipal était en désaccord, et la mairie s'était engagée à suivre l'avis. C'était un mécanisme donc décisionnel, contrairement à tous les mécanismes qu'il y a en cours qui sont simplement consultatifs. Ce mécanisme-là a été cassé par le préfet pour une raison simple, c'est que en France, avoir un mécanisme décisionnel dans lequel les citoyens prennent directement les décisions est illégal. Donc, en fait, Grenoble n'était pas la seule à avoir un jugement cassé là-dessus.
Mais pourtant, ça existe, la démocratie participative aujourd'hui.
Oui, mais
ça revient dans l'essentiel, je l'ai dit un peu tout à l'heure, à des budgets participatifs. Oui. Une petite partie du budget est mise au vote des citoyens.
Juste un point sur le droit local. Il ne faut pas confondre la démocratie participative et la démocratie directe. La démocratie directe, ça veut dire quand les citoyens décident. La démocratie participative, c'est quand les citoyens participent. Donc, effectivement, les budgets participatifs n'ont pas, au niveau légal, une valeur décisionnelle. Ils sont consultatifs, même s'ils sont suivis, très souvent. Donc, ils consistent à mettre ensemble des gens avec beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions, pour avoir des discussions autour d'environ 5% du budget de la municipalité. Et, en plus, sans que ce soit une décision prise automatiquement.
Alors on va en reparler, mais en général, les choix exprimés lors de ces votes, en tout cas, c'est le cas dans un certain nombre de villes, sont ensuite appliqués. Bon, ce sont pas des enjeux énormes, hein, ce sont des aménagements urbains le plus souvent. Cécile Untermaier, vous avez réfléchi, donc vous êtes députée socialiste de Saône-et-Loire, hein, présidente du groupe de travail de l'Assemblée sur les nouvelles formes de participation citoyenne. Vous avez réfléchi à tout ça. Comment pourrait-on aller plus loin ?
Écoutez, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas opposer démocratie directe à la démocratie participative. Il faut au contraire, c'est vrai que ce sont deux démocraties qui sont parallèles. Moi, je personnellement et mon groupe avec lequel je travaillais, nous préférons le croisement de la démocratie représentative et de la démocratie directe. Pour que les citoyens adhèrent à cette démocratie représentative, il faut qu'il y ait un contrat gagnant-gagnant, avec des règles transparentes, de la réactivité et un engagement que chacune des parties tient. Et si le dispositif est décisionnel, parce que contrairement à ce que j'ai entendu, on peut avoir des dispositifs décisionnels, eh bien ces décisions, elles doivent être prises, quelle que soit la décision qui a été prise. Mais il me semble que nous avançons quand même dans cette voie de la démocratie participative, avec cette exigence de mettre diverses formes d'expression citoyenne. Je crois que pour que la démocratie vive, bien sûr, elle doit aller au-delà de l'urne. Elle doit multiplier les formes d'expression citoyenne. Ça, c'est Pierre Rosanvallon qui l'a théorisé et exprimé d'une manière tout à fait claire. L'urne ne peut suffire à définir la démocratie. Donc, il faut y ajouter diverses formes d'expression citoyenne. Certaines ne sont pas abouties, mais tant pis, elles ont existé et à un moment, un débat a eu lieu. Et d'autres peuvent aboutir. Alors nous, ce que nous devons faire, bien sûr, en tant que législateurs, c'est proposer des révisions constitutionnelles. C'est ce que nous avions d'ailleurs fait lors du projet de loi de révision constitutionnelle, en révisant notamment les seuils du fameux RIP, c'est-à-dire le référendum d'initiative partagée, qui existe actuellement et dont le président de la République lui-même reconnaît que les seuils ne sont pas tenables.
Mais qui reste, Cécile Untermaier, qui reste à l'initiative des parlementaires.
Et des électeurs. Il faut l'initiative des parlementaires. Mais 185 parlementaires, ça n'est pas évident. Et là, pour ce qui est du RIP sur les aéroports de Paris, c'est l'ensemble de l'opposition, sénateurs et députés, sur tous les bancs, qui se sont réunis finalement pour permettre la validation par le Conseil constitutionnel de ce RIP pour lutter contre la privatisation des aéroports de Paris.
Oui, mais là, c'est le seuil des signatures qui est beaucoup trop élevé. Tout le monde l'a dit, tout le monde le sait.
Le seuil des signatures est trop élevé. Et là, si vous voulez, ce qui me semble tout à fait dommageable, c'est que des institutions telles que les nôtres et notre Constitution conservent des dispositifs que l'on sait inopérant. Et c'est ce que nous avions dit lors de la révision constitutionnelle. À tout le moins, on doit changer les seuils de ce référendum d'initiative partagée parce que c'est un mensonge et un irrespect vis-à-vis des citoyens, lesquels ne peuvent pas se saisir de ce dispositif.
Alors d'ailleurs à propos du RIP, on a beaucoup de témoignages nous disant que c'est un peu le parcours du combattant, hein, pour aller signer. On demande des informations que tout le monde n'a pas sur les lieux de naissance, etc. C'est très compliqué.
Plusieurs fois, moi, plusieurs personnes viennent dans mes permanences. Les préfets doivent écrire aux maires pour les sensibiliser sur cette question. On a un RIP qui a été validé par le Conseil constitutionnel, donc qui est tout à fait légal. Et il doit y avoir un accompagnement par le gouvernement de la mise en place de ce RIP. Et pour le moment, nous ne l'avons pas suffisamment. Les connexions sont très compliquées. Beaucoup de personnes me disent qu'elles veulent se connecter, mais qu'elles n'y arrivent pas. Moi, j'offre ma permanence pour les accueillir, mais vous voyez bien que c'est du bricolage. Alors même que nous avons finalement réussi une certaine forme de performance en arrivant à mettre sur la table ce référendum d'initiative partagée, nous rencontrons ensuite des difficultés matérielles qui ne devraient pas être dans cette France du 21e siècle.
Clara Egger, le RIP, ça ne suffit pas, clairement, pour avancer sur la démocratie participative.
Non, très clairement, le RIP, ça suffit pas, et c'est pas un instrument adéquat, et c'est même pas celui qui est demandé. Donc c'est une demande qui est à côté. Je pense que l'expérience de Patrick à Grenoble, elle révèle, en fait, elle est assez révélatrice de ce qui se passe dans les dispositifs actuels, dans un système qui ne fonctionne pas très bien et qui est assez excluant politiquement. Les dispositifs de démocratie participative, ils visaient deux choses. C'était accroître la fréquence à laquelle les gens pouvaient se prononcer sur des sujets, en dehors des élections, mais aussi apporter de la diversité d'opinions. Et là, je reprends les mots de l'invitée précédente. Ce qu'on sait empiriquement, c'est que ça ne marche pas. En fait, les personnes qui participent au dispositif de démocratie participative, et ça c'est des études qui ont été menées sur toute l'Europe, hein, parce que ces dispositifs sont pas français, un bel ouvrage qui s'appelle « Diploma, démocratie, la démocratie du diplôme » montre que ce qui est encore plus paradoxal, c'est que quand on veut accroître la participation, ceux qui participent, ce sont les mêmes que ceux qui votent. Des personnes
motivées,
éduquées, diplômées, renseignées, qui passent une énergie très très forte à se saisir de ces enjeux qui sont techniques aussi, pour des résultats qui sont minimes. Parce que le jour où, en fait, un conseil municipal n'a pas envie de suivre la recommandation, c'est un coup politique important, mais il peut ne pas la suivre. Rien ne l'oblige à la suivre aujourd'hui.
Alors, si je peux ajouter un mot sur le RIP, juste. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, juste quelques points de rectification. Le RIP, il est pas tout à fait partagé puisque l'initiative vient des parlementaires et ensuite on va chercher les signatures. Donc c'est pas possible de rechercher les signatures derrière. Le fait d'avoir.
Contrairement au RIC.
Contrairement au RIP, qui laisse l'initiative aux citoyens, c'est-à-dire que
sans passer par le Parlement,
le RIP est même plus dur que ce qui s'appelle généralement dans le monde d'initiatives minoritaires, c'est-à-dire effectivement un cinquième des députés généralement minoritaires lance un référendum, mais ils n'ont pas besoin de les citoyens. Là, c'est un problème, c'est-à-dire que ça augmente la difficulté pour tout le monde. Juste sur le récolte de signatures, c'est pas seulement une question de nombre qui est évidemment inatteignable, mais c'est aussi une question de récolte, c'est-à-dire que c'est sur une plateforme internet. On sait très bien que quand on laisse les citoyens,
on vient de le signer, voir, c'est compliqué.
Voilà. Ok, je vous laisse la suite de la discussion.
En parlant de votation, on a souvent en tête l'exemple suisse, bien sûr, et c'est justement de la Suisse que Pierre veut nous parler. Bonsoir à vous, Pierre. Vous nous appelez de l'Isère encore.
Oui, bonsoir. Oui, en effet, de l'Isère. Voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir des amis suisses avec qui cet hiver on a échangé sur les problèmes de référendum et de votation. Donc j'en ai tiré quelques conclusions. La première, c'est que le système suisse est très progressif et il y a beaucoup de garde-fous, d'aller-retour vis-à-vis de la constitutionnalité. Et j'ai compté 9 étapes entre ce que les Suisses appellent l'initiative populaire et puis le référendum. La deuxième constatation que j'ai faite, c'est que il n'existe pas en Suisse de référendum révocatoire ou de référendum concernant les traités internationaux, tels que le CETA ou le Mercosur dont on parle actuellement. Voilà. Et la troisième remarque qui me vient à l'idée, c'est que ces référendums sont précédés par un très gros travail qui demande une grosse présence des citoyens. Il y a des livrets qui sont donnés pour chacun des thèmes du référendum, des émissions qui sont faites à la télévision, des conférences, et qui demandent de se mobiliser pour la participation et comprendre ce qui se passe. Et en conclusion, mes amis suisses disent que la participation est en baisse, d'abord parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de référendums qui sont regroupés sur des journées qu'ils appellent les votations, que certains sujets aussi sont très techniques, n'enthousiasme pas les foules et demanderait pour avoir un vrai avis, et là je pense au CETA, d'étudier réellement dans le détail ce qui est présenté. Et donc, il y a une participation qui est en baisse.
D'accord.
Mais voilà, donc l'idée c'était qu'on avait un système en France qui était quand même à mi-chemin entre l'instabilité permanente et la stabilité permanente.
Alors on comprend bien, Pierre, que de votre point de vue, l'exemple suisse n'est pas toujours convaincant, Clara Egger.
Oh bah je pense que, je sais pas moi, ce que je retiens de Pierre, c'est qu'il est assez convaincant.
L'exemple beaucoup plus difficile qu'on ne croit.
Oui, parce que, alors nous quand on a écrit cet ouvrage et puis on a fait une série de conférences pour le présenter, il y a plusieurs aspects sur la remarque de Pierre sur lequel je voudrais revenir, c'est que souvent en France, on a l'idée d'une votation comme un oui-non, pour ou contre la peine de mort, pour ou contre le suffrage féminin.
C'est le principe du référendum.
C'est le principe du référendum, mais de type gouvernemental. C'est-à-dire, le gouvernement pose une question, selon ses termes, à la population pour savoir s'il l'accepte ou non. On peut penser au référendum sur le projet de constitution pour l'Europe, par exemple. Là, l'initiative populaire, c'est complètement différent. C'est à l'initiative des citoyens d'écrire le projet. D'écrire complètement le projet de loi, donc d'être capable de dire là je change cet article ou le projet de loi constitutionnel. Alors on a des propositions en Suisse qui peuvent être très très longues, parce qu'il faut être capable de dire ce mot-là je le change par celui-là, donc ça demande effectivement un travail très important, ça c'est sûr, c'est pas quelque chose, on se lève le matin, on dit je suis pas d'accord avec cette loi et j'écris sur un petit bout de papier, je le présente, c'est pas ça, c'est vraiment un gros travail. Je sais pas si j'ai bien compris la remarque de Pierre, parce que c'est vrai que dans les débats actuels, quand on parle de référendum en toute matière, les Suisses ont le référendum obligatoire. C'est-à-dire tout changement constitutionnel nécessite de faire venir, de convoquer un référendum. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque même si la voie normalement habituelle dans la Constitution française devrait être la voie référendaire, en fait, il y a aussi la possibilité de passer par les 3/5 du Parlement. Donc les Suisses, oui, votent en matière internationale. Votent aussi sur... En fait, il n'y a pas de restriction de sujet sur lesquels ils peuvent voter. Donc ils vont se prononcer. Par exemple, les Suisses ont voté un certain nombre de fois sur l'adhésion à l'Union européenne, ont refusé et sont parmi les Européens les plus informés sur l'Europe. Ils la connaissent bien mieux que nous parce qu'en fait, ils ont à chaque fois été amenés à se présenter là-dessus. Sur la participation, ça c'est un enjeu qui est important, c'est vrai. Les Suisses votent en moyenne, les votations suisses, c'est 40% des électeurs qui se déplacent.
Là, trop de votes tue un peu le vote.
Voilà, ça c'est sûr. Et l'idée de regrouper, c'était celui-là. Hein. C'était de dire, regroupons sur une journée. Mais ce qui est vrai, c'est que ça crée aussi ce qu'on appelle un public par enjeu. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas intéressées par une question ne se déplacent pas. C'est pas un mal en soi, hein, le fait que si on n'a pas un avis sur la question, on ne se déplace pas, parce que, en fait, en réalité, ce qu'on observe, contrairement à ce qui se passe en France, c'est que les abstentionnistes sont très différents à chaque scrutin. Si moi, je suis mère de famille et je suis intéressée par la question de l'implantation des crèches, je vais me déplacer. C'est peut-être très technique, mais je vais me déplacer. Par contre, alors on prend souvent cet exemple, il y a eu une votation à Lausanne sur l'ouverture des bureaux de tabac près des gares après 20h le dimanche. Bon, ça intéresse un petite partie quand même de l'électorat. Donc moi, je me déplacerai pas sur cette question, par exemple.
Cécile Untermaier, est-ce qu'il faut aller plus loin sans aller jusqu'à l'exemple suisse forcément, mais vous parliez du RIP tout à l'heure. Est-ce qu'il faut pas passer à l'étape suivante, aller plus loin?
Oui, bien sûr qu'il faut aller plus loin. Et là, je rejoins également vos interlocuteurs, c'est que le RIP doit être à l'initiative et des parlementaires ou des électeurs. Donc on doit avoir un dispositif avec des seuils affaiblis, une modalité aussi d'initiative qui soit réellement partagée.
Mais vous dites toujours le RIP, vous dites pas le RIC.
Non, je ne dis pas le RIC parce que je considère que le RIC en soi est intéressant parce qu'il suscite un débat. Mais la France n'est pas la Suisse. On a 67 millions d'habitants, ils en ont 8. Les Suisses s'expriment quasiment tous les trimestres, soit par des votations, soit par des élections. Ils sont appelés à se prononcer pour ou contre les cornages des bœufs, par exemple. C'est pas inutile. C'est un débat. Ils sont dans une terre de débat. La France, elle apprend maintenant à débattre. Peut-être que le grand débat nous a donné le coup d'envoi, mais Avant cela, il y a des initiatives multiples sur les territoires en matière de démocratie participative, réussie ou pas, décisionnelle ou pas. Je pense que dans les villes et dans les communes et les petites communes, il se passe des choses aussi extrêmement intéressantes.
Justement, Cécile Untermaier, Cassa de Haute-Savoie nous écrit que en Suisse, on peut voter pour des sujets nationaux, mais souvent pour des sujets cantonaux ou communaux, comme Clara Heger le disait à l'instant. Pourquoi ne pas commencer par là en France? Par des référendums locaux.
Moi, je pense qu'il faut commencer partout. Il faut aller partout. Il faut faire finalement de la France une mosaïque de l'expression citoyenne. Et moi, en tant que législateur et en tant que député, je suis très impliquée dans ces questions parce que je considère que, en tant que femme élue représentant le peuple, je me dois entre deux élections de travailler avec les électeurs. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai, mais d'autres collègues l'ont fait également, mis en place des dispositifs d'ateliers législatifs citoyens pour réfléchir effectivement sur les projets de loi en amont et tenir compte de leurs observations, pour mettre en place des jurys citoyens lorsque nous avions encore cette fameuse réserve parlementaire, pour la partager ensemble sur la vie d'un territoire portée par des associations. Nous avons introduit dernièrement dans le règlement un droit de pétition, mais qui soit véritable, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de clics, cette pétition, non pas comme le prévoit le règlement actuellement, mais comme il devrait le prévoir, cette pétition oblige le législateur à un débat parce que le citoyen le lui demande. Donc je pense que nous sommes actuellement dans un mouvement qui se cherche et je pense que le RIC ne doit pas être le seul objectif visé. Il me semble que nous avons toute forme de participation citoyenne. L'important, c'est que le contrat soit gagnant-gagnant et que personne, à la fin du compte, se sente floué. Alors, par le dispositif.
Raoul Magny-Berton, on l'entend, hein, les parlementaires réfléchissent beaucoup, on est toujours dans le débat, et on a du mal à avancer, on a l'impression quand même.
On a du mal même dans le vocabulaire, parce que moi, malgré tout, ce que j'entends, c'est que l'objectif, c'est l'expression citoyenne. C'est pas ça l'objectif. Enfin, du moins, des mouvements qui sont mobilisés, l'objectif c'est la décision citoyenne. C'est quelque chose de différent, de s'exprimer, de prendre des décisions. Alors, on peut dire, oui, alors, ça je l'ai entendu souvent, la France n'est pas la Suisse, n'est pas les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, dans 24 États, ils pratiquent le RIC, y compris pour la constitution de l'État, vraiment
oui,
tous les ans.
Localement donc.
Oui, mais attention, parce que comme vous dites localement, il faudrait faire localement en France. Les États-Unis et la Suisse sont des pays hyper décentralisés, c'est très fédéraux. Vous savez, les Suisses ou les Américains payent environ entre 70 et 80% de leurs impôts à leur région. Il ne passe jamais par l'État central. 20% reste à l'État central. Donc, vous imaginez les nombres de décisions qu'on prend au niveau local. C'est incroyable. C'est presque comme un État. Alors qu'en France, si on commence au niveau local, on commence sur les détails, en fait. C'est le problème. C'est-à-dire que pour commencer au niveau local, il faut décentraliser la France. Et sinon, il faut commencer au niveau central.
C'est une toute autre culture. Rapidement, Clara Heger.
Oui, juste pour réagir sur, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend, ce n'est pas dans la culture française. L'argument qu'on défend dans cet ouvrage, on n'est pas le seul à le défendre, c'est que les institutions forgent la culture politique. Or, un des premiers à avoir créé une forme de RIC, une forme de RIC constitutionnelle, c'était Condorcet. C'était la constitution de l'an 1 qui n'a jamais été adoptée, mais qui était au cœur des débats. La question de la démocratie directe et pas participative était au cœur des débats à l'issue de la Révolution française. Elle n'a pas été adoptée, mais c'est pas étranger à notre culture politique.
Alors justement, vous faites allusion à l'histoire. Il y a eu aussi par des référendums appelés plébiscites, qui ont un peu refroidi, disons, les ardeurs des républicains. C'est par référendum que Napoléon Ier a été confirmé, que le coup d'État de Napoléon III a été ratifié. Vous voyez,
et qui
c'est à double tranchant parfois.
Oui, mais c'est pas alors. C'est comme souvent on nous prend l'exemple du Brexit. On dit ouais mais regardez le Brexit. Mais le Brexit est un référendum gouvernemental. Ce n'est pas un référendum d'initiative citoyenne. Donc ça c'est important. C'est les exemples qu'on donne, c'est des référendums d'initiative gouvernementale. Et dont on le sait que les effets sont complètement différents du RIC ou de forme de participation citoyenne.
Alors de la même façon, il y a des référendums d'initiative citoyenne qui parfois donnent l'impression aussi d'aller à l'envers de l'histoire. On l'a vu en Suisse, hein, où l'interdiction des minarets, l'interdiction d'embaucher des travailleurs étrangers, etc.
Oui, alors là on a fait...
Le peuple est parfois conservateur ou rétrograde.
Le peuple est parfois conservateur, rétrograde.
En 81, référendum sur la peine de mort, qu'aurait-il donné?
D'accord, je vais vous répondre là-dessus. Parce que là, on a étudié tous les référendums qui sont passés dans le monde, donc on a essayé de voir. Les exemples, là, on a toujours les exemples négatifs. Je prends un exemple. En Suisse, le droit de vote des femmes, 1971. Oula, c'est les mecs qui votaient. On se dit, bah, ils vont jamais le donner. Sauf qu'au Colorado, par RIC, les femmes ont le droit de vote en 1893. C'est-à-dire, donc, environ plus de 50 ans avant les Français. Ouais. On trouve des exemples comme ça.
On trouve de tout.
C'est-à-dire que, y compris sur la peine de mort, l'Oregon, 1914, a voté par RIC l'abolition de la peine de mort. Donc, vous trouvez systématiquement des abolitions des décisions très très progressistes ou très en retard dans les deux cas. En France en particulier, je soupçonne que c'est les sénateurs qui interdisaient, ne faisaient pas passer l'abolition de la peine de mort dans les années 30 parce que elle était une proposition qui était sur la table et la majorité des Français étaient d'accord. S'il y avait eu un RIC, probablement on l'aurait eu dans les années 30 comme la Suisse. Et aujourd'hui, je pense le plus probable pour réintroduire la peine de mort en France, c'est par l'élection d'un représentant.
Alors, on parlait de décision, de mesures décisionnelles, de prise de décision par les citoyens. On parlait de démocratie participative. Elle existe donc aujourd'hui dans 90 villes, à peu près, villes et départements, hein, notamment à Paris, sur 5% du budget d'investissement, 100 millions d'euros à peu près. La ville d'Angers également s'y est mise depuis l'année dernière. Bonsoir, Michel Moreau.
Bonsoir.
Vous êtes première adjointe au maire d'Angers en charge de la citoyenneté. Alors, vous demandez donc aux Angevins, aux Angevines de donner leur avis sur une toute petite partie du budget d'investissement. Hein,
oui.
C'est quoi? 1 million d'euros.
Il est évident que notre politique en faveur de la citoyenneté et de l'expression des citoyens ne se limite pas à cela, sinon ça serait un peu gadget. C'est tout un ensemble, bien entendu, de dispositifs avec un changement culturel important dans nos services, dans la mentalité des élus également, puisque nous avons établi une charte de la démocratie participative où on rappelle évidemment le vocabulaire classique, l'expertise d'usage, ne pas tricher. On en avait même oublié que nos experts d'usage étaient aussi nos salariés. À force de dire que l'habitant est expert d'usage, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des professionnels. Donc je crois que le budget participatif, c'est une étape supplémentaire, puisqu'on avait déjà, et nous avons déjà, les fonds de participation des habitants, les journaux de quartier qui permettent aussi une façon de s'exprimer. Moi, je crois que la loi fait avancer les choses. Elle n'est pas suffisante. D'où, et j'ai bien aimé tout à l'heure ce qui a été dit en faveur de la décentralisation, s'il n'y a pas plus d'autonomie des communes, des régions pour mettre en place des initiatives, ça ne marchera pas.
Mais là, à Angers, c'est vous qui proposez les projets soumis au vote. Ce ne sont pas des idées qui viennent des habitants.
Non. On fait un appel à projets sur une plateforme participative. Les habitants propose des idées pour le budget participatif. Ensuite, il y a une étude de faisabilité dans les services. Les contraintes sont que l'investissement doit être sur l'espace propriété de la ville, que ça rentre dans les limites budgétaires et dans un calendrier réalisable. Après, le porteur ou les porteurs de projets suivent l'action qu'ils ont proposée, l'investissement, jusqu'à la réalisation. Donc effectivement, nous sommes à la deuxième donnée, mais non, sur les habitants qui proposent autrement.
Il s'agit de projets relativement modestes, évidemment, hein, des aménagements urbains.
À 1 million d'euros, c'était la première année, nous avons pris l'exemple de Grenoble et de Rennes pour se mettre en route. Il est évident qu'on ira plus loin, puisque ça marche, les gens ont une maturité pour proposer des choses ingénieuse, utile, et où les services ont été un petit peu étonnés, parce que ce qui bouscule culturellement, c'est qu'il y a une ligne tracée par les politiques avec un budget, et puis là on leur dit « Ah oui, mais là c'est plus prioritaire parce que les habitants ont choisi de faire autre chose ». Donc, mais ça maintenant c'est intégré.
Et quelle est la participation? Un auditeur nous disait tout à l'heure qu'à Grenoble ça marchait pas forcément très bien.
Nulle part, voilà.
Quel est l'investissement des Angevins?
Je suis modeste. La première année, nous avons donc eu 300 propositions. 60 ont été mises au vote parce qu'il y avait des propositions à peu près identiques, donc il y a eu des regroupements, et nous avons eu très exactement 6667 votants pour cette première année. Là, nous en sommes à la deuxième année, donc pour les votants, nous allons bien sûr avec les tablettes numériques sur l'espace public pour que les gens viennent voter à la sortie des écoles, pour que les gens qui n'ont pas l'habitude du numérique puissent aussi s'exprimer. Moi, je crois que c'est un des éléments. Nous comptons beaucoup aussi sur la formation citoyenne, et j'ai bien aimé l'idée des ateliers de citoyenneté, parce que n'oublions pas que dans notre pays, il y a la loi de 2003 sur les conseils de quartier, qui a été pour les villes de plus de 80 000 habitants, qui n'est pas forcément bien appliquée, ou alors on met des élus à la tête des conseils, et c'est pas ça. Ou alors on ne tient pas compte de ce qui a été proposé. Nous, une fois par an, les conseils de quartier sont réunis en conseil municipal, public, et font la synthèse de leurs travaux et peuvent dire pourquoi on a dit oui, pourquoi on a dit non. L'important, c'est de prendre en compte. On ne peut pas tout réaliser, mais l'important, c'est de dire pourquoi. Donc les autosaisines ou les saisines qui sont faites doivent avoir une réponse précise. Il y va de la crédibilité des élus. Je pense que c'est ça aussi. Ne pas dire que c'est une concertation si c'est juste une information. Et n'oublions pas non plus la loi Lamy avec les conseils citoyens pour les quartiers politiques de la ville. Alors c'est plus compliqué parce que ça concerne un dispositif contractuel. N'oublions pas, et moi j'insiste beaucoup, le premier rôle des citoyens, c'est de s'exprimer et de faire bouger les choses au niveau des conseils d'école. Et là, on a un abandon aussi des parents. Et c'est un lieu où on peut parler, non pas du programme scolaire, mais de l'environnement de l'école, de la sortie de l'école, et de faire bouger les élus. On doit avoir beaucoup d'humilité, nous, sur le travail que l'on mène. Et puis, je suis aussi pour la formation, pour les syndicats, pour les partis politiques.
Bon, parce que... Merci beaucoup, Michel Moreau. Vous êtes intarissable sur ce sujet. On voit que ça passionne, en tout cas, les élus de ce pays. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, Guerre.
Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de remise en doute qu'au niveau local, il y a beaucoup
d'initiatives. Quelque chose est en train de se passer.
Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense qu'il y a aussi le constat que là, le divorce, en tout cas, et les données d'enquête d'opinion sont très claires là-dessus. Le divorce entre les représentants et les représentés est extrêmement fort. Et donc, il faut faire quelque chose. La question, c'est que faut-il faire? Et si on veut atteindre l'objectif de rendre les gens plus actifs, il faut les laisser décider.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'au RIC que demandent les Gilets jaunes, c'est-à-dire une initiative citoyenne qui permettrait de voter ou d'abroger une loi et surtout de révoquer un élu?
Alors juste une chose, tout à l'heure, il a dit qu'en Suisse n'existe pas ce qui est correct au niveau national. Mais
le référendum révocatoire. Oui.
Voilà, référendum révocatoire, une procédure de révocation, il y a dans 7 cantons suisses. Donc, je comprends, dans votre question, est-ce qu'il faut aller jusqu'à? Mais jusqu'à, c'est pas très loin. Il y a quand même 36 pays qui ont le RIC, ils se portent très bien. Il y a des gens qui, comme je notais, il y avait les États de l'Ouest américain qui étaient remplis de personnes qui n'avaient pas scolarisé et qui ont quand même grandi avec ce RIC. C'est un droit qui est, je vais vous raconter, l'Uruguay a le RIC. L'autre jour, on avait un Uruguayen et on parlait de notre livre sur le RIC. Il nous regardait l'air un peu interrogatif. Jusqu'à ce qu'il a demandé, est-ce qu'en France, mais en France, vous l'avez aussi. On a dit non. Quoi ? Il a dit. Mais c'est un droit fondamental.
On dit souvent que les électeurs ne votent pas sur la question posée, mais sur celui qui la pose. C'est pour ça qu'on est très très réticents au référendum en France. Mais est-ce qu'à contrario, Cécile Untermaier, je vous pose la question, est-ce qu'à contrario, ce problème-là, justement, ne serait pas résolu par un RIC ? Puisque, en l'occurrence, le RIC est initié non pas par le gouvernement, mais par les citoyens eux-mêmes.
Écoutez, moi, je crois quand même qu'on ne peut pas coller un dispositif comme ça qui émerge. Il faut vraiment écouter le terrain écouter les citoyens. Et je pense que, par exemple,
ils se sont exprimés, les citoyens.
Non, mais l'exemple d'Angers est tout à fait intéressant. On voit effectivement des dispositifs qui sont mis en place, qui marchent ou qui ne marchent pas, mais on sent quand même une culture citoyenne qui se met en place. Moi, je vais vous donner un exemple de dispositif décisionnel, parce qu'il n'y a pas que le RIC qui est décisionnel. J'ai mis en place un jury citoyen pour répartir l'enveloppe de 130 000 euros que je disposais dans ma circonscription, réservée aux associations et aux petites communes. En fait, j'ai réuni, j'ai fait un appel à candidature, on a fait la parité femmes-hommes, un jury s'est réuni, il a entendu les associations et il a décidé lui-même de la répartition, de retenir des opérations dans les quartiers d'autres, et je n'étais pas là comme la cheville ouvrière et décisionnelle. Donc on a des dispositifs qui existent. Je crois que au niveau, il n'y a pas la participation citoyenne, c'est pas RIC ou pas RIC. Je pense que c'est tout un ensemble.
Bien sûr.
Et il ne faut pas se focaliser sur le RIC. Il faut au contraire, je pense, avancer, ratisser de manière humble et large sur cette question de participation. Et nous avons des dispositifs participatifs qui peuvent être décisionnels. Et je crois que l'enjeu actuel, c'est qu'au niveau local, les maires se sont saisis de cette question. Sans doute faudrait-il maintenant prévoir aussi des formations en démocratie participative, en recueil de démocratie directe, le cas échéant, parce qu'ils n'ont pas ces formations.
Allez, on va prendre un nouvel auditeur qui nous appelle des Yvelines et qui nous attend depuis un petit moment déjà. Jean-Charles, c'est à vous. Nous vous écoutons.
Oui, bonsoir et merci pour la qualité de vos émissions. Je vais aller un peu à contre-courant de ce qui est dit jusqu'à présent. Est-ce que vous ne pensez pas que le véritable problème n'est pas plutôt la façon dont nos lois sont votées ? Je vais être simple. Je pense que les référendums, quelle que soit leur forme, au niveau local, à mon avis, peuvent avoir un effet. Parce que les gens se sentent beaucoup plus près de leur ville, de leur département. Mais au niveau national, on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se cristallisent. Et le fait de donner la parole au peuple, il va donner son avis sur tout et n'importe quoi sans avoir tous les éléments. Les émotions, comme c'est évoqué dans la République de Platon, nous le montrent bien. Et je vous invite à lire ce livre qui est quand même assez compliqué, mais extrêmement intéressant dans la façon dont fonctionne notre démocratie. Mais en deux mots, regardez comment fonctionne une assemblée de copropriétaires. Lorsqu'il y a des choses qui sont assez simples, on demande juste la majorité. Par contre, pour des faits qui sont très importants, on va demander les deux tiers. Alors vous me direz qu'aujourd'hui, au niveau de la Constitution, quand on a besoin de faire des modifications, on va demander à ce moment-là les 3/5. Mais si demain on donne la possibilité au peuple de s'exprimer sur la peine de mort, alors qu'il y a eu juste avant quelque chose de très important et de grave, on va demander à un moment donné aux gens de s'exprimer sur la fin de vie, avec tous les éléments qu'on a pu voir sur l'affaire Vincent Lambert. Est-ce que aujourd'hui notre problème, il n'est pas sur nos représentants qui ne prennent pas la mesure des choses et veulent avant tout s'accaparer le pouvoir et ne voient pas l'intérêt du citoyen dans la façon de voter les lois.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez alors comme système ?
Alors, moi je ne suis qu'un simple citoyen. Je dis juste que lorsque l'on demande par exemple pour des choses importantes sur le droit à la fin de vie, sur la façon dont le fait de dire s'il faut oui ou non la peine de mort, est-ce qu'il y a un système qui est en place avec un pouvoir qui va avoir la majorité, tel qu'on a pu le voir depuis ces décennies. Est-ce que tout d'un coup, on ne peut pas demander aux 3/4 des parlementaires de donner leur avis et va permettre de créer à ce moment-là un rééquilibrage au niveau des décisions qui sont à prendre et beaucoup plus représentatives du peuple.
On va voir le système de votation.
Du coup, la question qui est importante, c'est que, premièrement, il faut se dire que le RIC, c'est quelque chose qui n'est pas sur toutes les lois. C'est sur les lois sur lesquelles il y a une initiative citoyenne. Donc, ça veut dire que c'est sur des lois que les parlementaires ne font pas. Il y a des parlementaires quand il y a le RIC. C'est un instrument de contre-pouvoir. Les effets du RIC, c'est tout à fait contraire à ce que dit Platon dans La République, qui est quand même bien, mais un peu élitiste. Moi, je l'ai lu aussi, ce livre. Parce que, en fait, ce qu'on observe, c'est que la dette publique, quand on a le RIC, est beaucoup plus faible. Donc, la dette publique, c'est vraiment le symbole de l'efficacité d'un État.
Les citoyens sont plus raisonnables que les élus.
Mais pourquoi ? Parce que les citoyens payent. Les élus, non. C'est les citoyens, c'est quand...
Comment ça, les élus, non ?
Ouais, enfin, c'est pas que eux qui payent. Les citoyens, c'est tous les contribuables qui sont en train de voter sur quelque chose. Donc, l'enjeu est complètement différent.
Un mot du...
Je peux vous dire une chose.
Allez-y.
Aussi. C'est important parce que tout à l'heure, on parlait des jurys. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Dans la situation des RIC, de la démocratie directe, le boulot, c'est le représentant qui le fait. Et ensuite, le citoyen peut lui dire, je suis pas d'accord, je t'arrête là, ou alors on fait autre chose. En revanche, dans les jurys citoyennes, on demande aux citoyens de faire le boulot des élus, sans derrière leur donner le pouvoir de les arrêter quand ils veulent. Vous voyez, c'est totalement différent comme structure. C'est vrai que c'est décourageant. Démocratie participative.
Un mot, Clara Higuère. Oui, juste un mot pour revenir sur un point plus général, parce que le débat s'est orienté sur démocratie participative contre démocratie directe. Je pense qu'il faut rétablir une série de faits sur cette question. Si l'objectif, c'est de remobiliser des citoyens vers la politique et des citoyens qui en sont exclus, la démocratie participative ne marche pas. C'est pas quelque chose qu'on dit avec notre opinion s'élever ce matin. Ce sont des études qui le démontrent. Le RIC n'est pas un dispositif qui émerge aujourd'hui. La Suisse le pratique depuis le 19e siècle.
Mais ça fait partie de la démocratie participative. C'est un ensemble,
oui.
C'est un tout.
C'est de la démocratie directe. C'est-à-dire que les gens vraiment décident et les élus ne sont jamais actifs, ne peuvent jamais reprendre en main le phénomène. Donc je pense que sur ces enjeux, ce qui est important, c'est bien sûr le RIC, mais pas que. Mais pas tout, mais pas le RIC. Parce que c'est ça qu'on a l'impression d'entendre, en fait, aujourd'hui.
Cécile Untermaier, un mot de conclusion, démocratie participative, directe.
Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la réaction de votre dernier interlocuteur sur le rôle de comment la loi est votée. Effectivement, le législateur doit s'interroger là-dessus et l'État doit s'interroger aussi là-dessus. Comment la loi ensuite est appliquée et quel contrôle citoyen est ordonné, organisé par rapport à la loi. Donc on a, je pense, actuellement un très gros enjeu, c'est faire en sorte que l'expression citoyenne, la participation citoyenne, l'écoute citoyenne et même la décision citoyenne, elle soit prise à bras-le-corps par l'État lui-même. Il doit, dans ses dispositifs, par exemple de subvention, associer des jurys citoyens pour que ceux-ci puissent donner leur avis et connaissance du mode de fonctionnement de l'État. Nous sommes actuellement dans un impensé juridique du rôle du député qui manque depuis des années. Le député est un espèce de papillon qui se trouve à l'Assemblée nationale alors qu'il doit être également sur le terrain et faire cette navette incessante entre les électeurs, c'est-à-dire les citoyens, et la décision finale qui sera prise.
Merci à vous, Cécile Untermaier. On est obligé de s'arrêter là. Députée socialiste de Saône-et-Loire, présidente du groupe de travail à l'Assemblée sur les nouvelles formes de participation citoyenne. Merci à vous. Juste un mot, Raoul Magny-Berton, le seuil de signature, puisqu'on a commencé par là, le RIP actuel, inatteignable, il doit être très élevé, moins élevé, parce que s'il n'est pas trop élevé, il y a un risque de manipulation des groupes d'intérêt.
Non, pas du tout.
C'est le contraire.
En fait, c'est le contraire. Disons que les groupes d'intérêt, quand il est élevé, seuls les groupes d'intérêt très riches peuvent le faire.
D'accord.
Alors que quand il est faible, tous les groupes d'intérêt peuvent le faire. Mais un groupe d'intérêt, c'est aussi une association de quartier. Donc, ou un syndicat. Donc, ça veut dire que plus on le baisse et plus on l'ouvre à l'ensemble des groupes d'intérêt. Alors, évidemment, si vous êtes un citoyen dans aucune association, ça, c'est difficile de lancer un truc comme ça. Mais précisément, l'existence de ce phénomène va pousser l'ensemble des gens dans les associations, c'est ce qu'on observe.
Merci beaucoup Raoul Magny-Berton. Clara Egger, je rappelle votre ouvrage sur le référendum d'initiative citoyenne, expliqué à tous, paru donc aux éditions FIP. Voilà, il est 20h sur France Inter.